organisatrices, enfin, disons les collaboratrices et collaborateurs qui ont organisé ce colloque extraordinaire. Et je veux dire tout d'abord, enfin quelques mots simplement, enfin, c'est un grand plaisir d'être ici dans ce colloque hommage à Hélène Cixous et pour tous les textes, Hélène, que tu nous as offerts. Tu disais dans « Les rêveries de la femme sauvage » que tes refuges étaient les livres, que ta nationalité était la nationalité littéraire. « La littérature est ma famille autre », as-tu écrit aussi dans « Gare d'Osnabrück à Jérusalem ». On le rappelait bien hier. Heureusement, Hélène, tu vas continuer à écrire. L'écriture, c'est la vie. L'écriture, c'est ta vie. Et ton écriture, ces joyeux pétales, c'est aussi une partie de notre vie. C'est dans cette planète, trésor de mots dont parlait hier Michel Ramonde, qu'on veut être et qu'on veut rester. Bon, c'est... Merci Hélène. Bon, c'est, comme je disais, un plaisir d'être ici et un honneur de présenter les collègues d'aujourd'hui. Bon, je commence par Monsieur Laurent Ferry, qui va faire sa conférence, bon, enfin sa participation finalement en anglais. Il est actuellement conservateur des livres à Chantilly, des livres et manuscrits à Chantilly. Et avant de rejoindre le personnel scientifique du musée Condé, il était conservateur des collections intérieures à 1800 et dans la division de livres rares et manuscrits de la bibliothèque Roche, et conservateur aussi du patrimoine aux Archives nationales françaises entre 2000 et 2005. Il est aussi professeur adjoint en littérature comparée et études médiévales à l'Université Cornell et depuis déjà 2006. Il a enseigné régulièrement, en particulier en tant que professeur invité à l'École nationale d'administration à Rabat, au Maroc, et à l'École nationale des chartes à Paris. Il a publié un livre et 22 articles de thèmes divers et a organisé plusieurs expositions. Il a participé activement dans le séminaire de Cixous et il a contribué au transfert des manuscrits de son illustre amie Hélène et à la Bibliothèque nationale de France. Hein. Et il a publié de toute façon avec Eric aussi et avec Monsieur Dubreuil la lecture à l'œuvre dans la quinzaine littéraire. Bon, enfin, il partage de toute façon un article de notre chère Hélène. Bon, Laurent, je te cède la parole et bon, enfin, j'explique un peu, hein, le changement de la langue.
Merci.
Ah, pardon.
Voilà. So I'm going to speak in English now. Why? Simply because I wrote the first version and then the second version of my talk while still at Cornell. In my English, which remains decidedly that of a non-native speaker, and also because I thought it would be strange in a good way. But it's for you to say. It is never easy to identify one author in particular as a point of entry and as a point of comparison to capture the multifaceted genius of Cixous. Speaking about the three Ulysses, Homers, Shakespeare's, and Joyce's, and about the disproportion of the potentially infinite memory they condense, Jacques Derrida said, "This is also true of Cixous' oeuvre, of each of her books. Tracing genealogies in the case of Cixous is an almost impossible task. I will try nonetheless and compare Cixous and Publius Ovidius Naso, the Roman poet who was born in 43 BC at Sulmo, Italy, was banished for his writings, and died in exile in Tomis on the Black Sea, today's Romania, 61 years later. It may not seem an obvious choice. In fact, Ovid has been almost ignored by the Cixous scholars, despite the fact that she has referred to him repeatedly in both her fictional work and in the seminar. Of course, it would be irrelevant to reduce their tumultuous friendship or Wahlverwandtschaft to the question of the Ovidian influences on Cixous, but only because one may as well speak of the Cixousian influences on Ovid, that is, on our readings of Ovid. But let's begin with the beginning, that is, with Algeria, a country left in 1955. In Cypre, 2007, the narrator, H, recalls her years at Lycée Fromentin in Algiers, how she was both held captive, le clos, Salambier, and given access to the maximum of freedom that offered by literature. Literature in French, but also literature in Latin. Au Lycée Fromentin, je suis bonne en latin. And Ovid may have been, for the young Ovid reader, the equivalent of Homer for Ovid, the dead poet who nursed her. Also at Fromentin, Ash, the only Jewish girl in the class, and Zora Drif, the only Arab girl in the class, invented a relationship in Latin, somehow replaying the dialogue between Narcissus and the nymph Echo in Book 3 of Ovid's Metamorphoses. As you certainly remember, the nymph Echo echoes back to Narcissus only the final words of his sentences. For example, when Narcissus asks, "Equis adest?" Echo answers, "Adest." In Cixous, beautifully translated into English by Peggy Kamuf, it becomes, "I was destined to be Echo, the one who left a body to keep only a voice, Echo the second." For example, when everything about Zora cried out, "Equis adest?" all I could do was echo, saying, "Et adest." It wasn't much, those cries. "Is there not someone here?" said voice Z, "Here." That is what voice Ash responds. "Here, I cooed, he cooed." In echoing back the question with the same intonation, Echo gives an answer that is still a question, not an answer, properly speaking. This is her only way to express herself. Echo echoes. Narcissus is pleased to enjoy the sound of his own voice echoed by someone else, but after a while, he gets puzzled and annoyed. Hoping to put an end to the confusion, he calls out, "Here, let us come together. Ue coeamus. Ue coeamus." Coire, the verb Narcissus has used, has two common denotations. It means to encounter, to join, but also to come in the sexual act, hence the coitus. Narcissus wants to come to terms with and to come in Echo. He wants to make one with her. Echoeamus contains Echo. In the refined and subtle English translation by Peggy, the seductive and erotic nature of the linguistic pact is suggested otherwise in a coo, a translator's coo, by the use of cooing, I cooed. The verb to coo means to utter the murmuring sound of a dove or pigeon. H rucul in Latin to seduce Z. 20 years later, while becoming the most brilliant feminist intellectual in the world, H C could not ignore the fact that Ovid was one of the first writers ever to give voice to the feminine. In his 20s, Ovid published the Heroides, 21 letters written by mythological women, heroine to famous lovers who abandoned her and all too often humiliated them. Those women recovered their dignity through writing, Dido to Aeneas, Penelope to Ulysses, Phaedra to Hippolytus, etc. Perhaps there's an echo of Ovid's Heroides too in Cixous' Déluge. Cette histoire a commencé dans une lettre que l'héroïne a écrite en 1950 à sa sœur Elisa, comme ceci. Back to Ovid. In Book 6 of the Metamorphoses, he describes Philomela's rape and mutilation, indulging in a somewhat grotesque and yet sublime transgendered prosopopeia. I personally believe that in this metalinguistic passage, metalinguistic in the strong sense, Ovid, maybe à son corps défendant, pioneered l'écriture féminine. Let me remind you the story of Philomela. In order to prevent his victim from speaking, the rapist king, Tereus, cuts her tongue, thus giving her, as well as the poet witness, a speechless mouth, os mutum. But this is not the end of the language, also lingua in Latin, for the tongue is going to live its own life and continue to speak. Lingua speaks on behalf of Philomela. Ovid here uses energeia, the power of language, to create a vivid presence by magnifying a detail in order to tell us that nothing can prevent women from writing with the body, a defining characteristic of écriture féminine, according to my good friend Marta Segarra. And of course, you also remember that Philomela will use weaving a tapestry, a language that has no tongue, to tell the story of how she was abused and silenced. And this tapestry brings to memory and to mind another tapestry, that of Arachne, which you can find in both the Metamorphoses and in Le Rire de la Méduse. Now, the main reason why H.C. and Ovid are close as writers, I believe, is probably because their work is driven by the same desire for metamorphosis. This desire is realized in the poetic language. Metamorphoses do not result in characters being one thing and one thing only. Consider, for example, the fate of Actaeon. Once alien horns were added to his forehead by Diana, whom he saw bathing naked. Actaeon is horrified when he sees himself, or literally by what he sees in himself, in ipso, in the mirror of water. When he stopped and looked into a pool at the reflection of his horns and muzzle, "Poor me," he tried to say, but no words came. "Miratur in ipso, ut vero vultus in cornua vidit inunda, me miserum dicturus erat, vox nulla secut est." Only a grounding sound, by which he learned that grounding was now to be his form of speech. Tears streamed down cheeks that were no longer his. Only his mind was left unaltered. Mens tantum pristina mansit. This passage, of course, may lead us to reconsider the opposition human versus animal with Derrida, even though in Ovid's Metamorphoses the same phenomenon occurs with minerals or with trees. For example, Niobe continues to mourn and weep after she has become a stone. So does Mira after she has been transformed into a tree. Though she has lost her former senses with her body, I quote, she still weeps and the warm drops trickle down from the tree. Quae quamquam amisit veteres cum corpore sensus, flet tamen et tepidae manant ex arbore gutae. One could say, of course, that this is what remains. See the many recurrences of the verb, manere, manant, mansit, of their past human nature, a reminder of their lost humanity. But it may also be said that they became more human. When I say more human, as she says, I ought to say better human. This means, while being human, not depriving oneself of the rest of the universe. It is to be able to echo again, with what constitutes the universe. Finally, the movement of metamorphosis impacts on our reading of the texts themselves, turning upside down any rational logic or chronology. For Sixu writes, and I quote, "Reading and writing place us in a universal and timeless lineage of lovers." Ovid comes before Sixu, strictly speaking, of course, and yet it comes after Sixu. For example, when Ovid recounts the dream of a ghost of the flesh, corporis umbra, in Ex Ponto, he writes, "I tell of what I saw, quae vidi refero, the ghost of a body, corporis umbra, or an image of reality, veri species. Or perhaps it was because I was more deeply asleep than usual." Ovid dreams that Augustus would pardon him. Mitescet caesaris ira et veniet votis molior aura tuis. And that he will be allowed to return to Rome very soon. The key sentence is voluntarily ambivalent. Amor points to the good timing. The prince is happy, celebrating a great military victory. He must be inclined, therefore, to pardon. But it sounds as if the condition for a complete triumph, and even a true reason for public celebration, would be the announcement of Ovid's triumphal comeback. Neve moram timeas tempus quodque eremus instat cunctae laetitia plena triumphus abet. Don't be scared at the delay. The time we wish is near, and the triumph has filled everyone with joy. If you've been trained in Sixtus seminar, you can imagine what a Sixtusian reading of Ovid's dream would look like. I imagine the emphasis would be placed on homophonies and inversions of letter, and Hélène would write on the board, amor, Roma, moram. Amor has deprived the poet of Roma, the place he has declared his only home. Mora, is also the delay, is now killing him, but there is still hope, and more importantly, he did not lose his creativity and sense of humor. The exhausted and castrated poet courtier certainly feels miserable now, but he still seeks the love of August, the political phallus, while asserting ironically his intellectual superiority over the prince of the moment. Ovid's dream reminds us what H.C. calls la douce autorité de la foi qui fait ta volonté. He's lucid about his misery. At the same time, precisely when he seems to be the most vulnerable, he enjoys the maximal freedom of the dreamer poet. Everything is possible in the dream because it is only a fiction with multiple versions. Even rat mangera pas. Ce n'est pas un rêve, me dis-je. And I've been to the BNF to look at some of the dream narratives, accounts of Hélène's dream. I encourage you to do it too. And I have the time to give you an examples of these dreams, which are always fascinating, and many of them being metamorphoses, dreams of partition, parturition, etc. Ovid after H.C. also means that Ovid had to become a character of H.C. sooner or later. It happens in the novelist fiction titled Sigu, when the narrator, in the middle of a nightmare, invokes Ovid as the great magician or metamorphoser, who could enable her to morph into something called un lettre, L-E-Y-T-R-E, and also into a river. Au-delà des broussailles, on arriverait à l'embarcadère. Je n'ai pas le courage de traverser ce mur d'épines. Si j'avais le courage, je pourrais déployer un récit dont chaque acte est le plus monumental que le dernier théâtre. Ah, si je pouvais être un lettre. Mais pour cela, il faudrait qu'un Ovide me métamorphose en petite rivière. A river, why not? We are now familiar with H.C.'s artistic compulsion to appropriate each and every essence. The dream of being a small river is prompted by the desire to go further herself, to return to the mother's womb house, or to cancel death and live forever with the homophonous mère. The frightening vision of le fleuve hécatombe, drowning everyone and everything in its wake, is replaced now by the hope of a survival in the form of a small river named Lettre. Do you know that there is an actual small river called Le Lettre? Until 1921, the Leita River formed the frontier between Austria and Hungary. Also, in one of the books kept in Chantilly, L'Harpe's Histoire des Voyages, 1804, I found the following sentence: Je traversais le Lettre et j'entrais dans la Hongrie. But of course, un lettre, une lettre, is also a letter. The je becomes a letter, la lettre confiée aux lettres, the manuscript found in a bottle. The voice that finds its way. Once again, a verbal creation permits the heroic dream of a metamorphosis, this time into a river that is also a letter. Une traversée de lettres and an conjuration of death. Lettre ou le néant. Rivers now no boundaries and no obstacles. They are seemingly eternal. In fact, Ovid, when he wants to praise Homer, says that the poet of the Iliad and the Odyssey is like an ever-flowing river because his name and his work will survive him and remain with us forever. Vivet maenodides, dum rapida simois in mare volvet aquas. Like the Leita River, the Simois is a petite rivière, and yet it was made eternal by Homer's Iliad. The plains of Simois near Troy was the scene of most epic battles for which Achilles, Ulysses, Hector, and Homer himself became immortal. Now, Ovid writes, Homer shall live so long as swift Simois does slide into the sea. Poets, however, are the ones who keep it flowing. The memory of Homer survives in the work of Ovid, who in turn comes to a new life as an interlocutor and as a character of Sixu. So yes, Homer met Ovid, and Ovid met Sixu by ways of dreams and literature. In the end, men and women of letters are rivers. They all merge together and end up not in Ovid, but in la pleine mer des histoires, the great sea of stories. Thank you.
Merci Laurent d'avoir respecté si scrupuleusement le temps prévu et merci aussi pour cette intervention aux voix croisées, à double voix, celle de Vite, celle de Sixto, à triple voix avec la tienne, avec tes réflexions. Si vous êtes d'accord, on fera comme précédemment, c'est-à-dire je vais céder la parole aux trois intervenants et puis à la fin, j'espère qu'on aura le temps d'établir un petit dialogue avec le public, évidemment même avec Hélène. Bon, d'accord. Alors, je présente Elsa Laflamme, et qui a obtenu en 2013 son doctorat en études françaises à l'Université de Montréal. Et sa thèse portait sur la poétique de l'événement chez Annie Ernaux, Hélène Sixou et Maurice Blanchot. Hein. Elle a été dirigée par Ginette Michaud, que nous avons écoutée hier. Elle enseigne la littérature depuis 2001 au Collège Gérald Godin de la région de Montréal. Elle a été également stagiaire postdoctorale et au Centre pour l'étude des écrivaines contemporaines de l'Institut de recherche de langue moderne à l'Université de Londres en 2014-2015. Ses recherches portent sur les écritures féminines et l'autobiographiques dans la perspective de la déconstruction et de la psychanalyse. Elle a collaboré pendant plusieurs années à la revue Spirale et consacrée aux lettres et aux sciences humaines. Et citée dans cette ligne le numéro 2010 et Hélène Sixou, la fiction du rêve est vrai, où Elsa Laflamme a travaillé sur l'outre-tombe et d'Hélène Sixou. Citait de même son article, hein, pour faire un petit choix, dans la revue Analyse, Subjectivité de l'autre chez Hélène Sixou, l'enfant et la mère en siège. Hein, et à travers le jour où je n'étais pas là, Revirement dans l'Antarctique du cœur et Aïe Aïe, le cri de la littérature. Bon, ça, bah, je dis ça et je lui cède la parole. C'est à vous de l'écouter. Hein.
Bord à bord, débord, coupure, couture, suture, seuil, portails et murs. Il a beaucoup été question depuis hier de toutes ces arêtes où se tient la phrase « l'écriture d'Hélène Sixou ». C'est de ces limites et des limites dont je vais parler aujourd'hui. Pour moi, tout a commencé au seuil du jour où je n'étais pas là, qui allait inaugurer mon chemin de lectrice à travers le corpus HC. J'entrais donc dans l'œuvre de Sixou par le jour, par l'espacement qui est le battement du texte et sa pulsation, à la fois un espace et un rythme, du temps consacré au temps. J'entrais dans la langue Sixou, j'arrivais sur la planète Sixou par le biais de ce portrait de l'enfant né trisomique, donnant à voir un visage empêché. Dans sa langue toute puissante et souveraine à dire, à dédire et au-delà, le récit du jour où je n'étais pas là se fait événement, en cherchant à raconter la naissance, le passage, puis l'effacement d'un enfant né trisomique et mort en bas âge. Publié en 2000, le texte autobiographique et fictif du jour où je n'étais pas là rend visible la puissance d'un secret qui finit par passer aux aveux, inventant une langue pour dire et faire l'impossible. Le livre raconte ainsi la naissance et la courte vie de l'enfant avant de tenter d'en reconstituer par l'enquête la mort alors que la narratrice était absente, le titre faisant entre autres référence aux circonstances de cette mort. Le récit est tout entier dédié à la trace de cet enfant et à ses multiples circonvolutions. Le récit se passe, le récit passe, générant quelque chose qui ne pourra jamais complètement être saisi, performant le trajet même de l'événement dont il témoigne dans la fiction, puis faisant arriver ce même événement, ou n'était-ce pas plutôt un autre, selon d'autres règles encore inconnues et inouïes de l'écriture. Or, quelles sont ces règles? Les connaît-on seulement? Quelles sont les limites dans lesquelles s'écrit ce texte? En effet, où est la limite? Mais où est la limite, criai-je, peut-on lire sur la première page du manuscrit du jour où je n'étais pas là? Cri de Sixou, cri de sa narratrice, cri de l'enfant niais au moment de naître, Où est la limite entre ce qui, entre ce que l'on peut et ce qu'on ne peut pas entendre, entre être et ne pas être, entre ce que l'on peut inventer pour un livre et ce qui ne se fait pas? Quelle est la règle à suivre, la limite à ne pas franchir si une telle chose existe? Peut-on inventer des crimes tels l'oubli d'un enfant pour un livre, les écrire en les faisant passer pour vrai? Dans le jour où je n'étais pas là, l'écriture est poussée dans ses derniers retranchements à travers la vie et la mort de l'enfant. Il en sera de même à partir de la vie et de la mort d'Ève Sixou, la mère, et tout particulièrement dans Homer est morte, qui sera ici notre deuxième pierre d'assise. Dans ce livre consacré à la mère, l'écriture se fait sur la fracture, à la limite de la vie qui est liée, comme Sixou le dit dans une autobiographie allemande, à une vision eschatologique de notre vie d'espèce. Fin de la citation. Marqué par le décès récent de la mère, Sixou écrit depuis, et ce depuis toujours, auprès de sa mère. Écrivant du côté de la vie, qui est aussi celui de la mort, indissociés et liés en même temps que fissurés et rompus, rythmés et pulsés l'un après l'autre, en une respiration infinie, Sixou se fait archiveur, réceptacle de la parole et de l'être, rapporteur, et je la cite ici, archéologue ou paléontologue de traces en cours de disparition. Fin de citation. Tel Homer enregistrant dans l'Iliade ce qui menace de disparaître, l'oralité de la mémoire de la mère s'inscrit dans l'œuvre. Ève s'entend, Ève est citée, Ève est rapportée textuellement. Ce rôle qu'assume Sixou d'instinct, comme elle le souligne encore une fois dans une autobiographie allemande, elle écrit « J'ai toujours eu, ou plutôt je suis un sentiment archiveur, mais je le perçois comme un instinct plutôt que comme un devoir ». Fin de citation. Ce rôle, donc, se joint à l'écriture pour façonner une matière à penser qui réfléchit au fondement de la vie et de l'écriture à partir des cas particuliers de l'enfant niais ou d'Ève, la mère. Ces êtres irréguliers, comme on dit baroque, de barocco, pierre irrégulière, deviennent motifs auxquels s'ajoutent ceux de Phipps, le chien à trois pattes, Omi, Irina, l'orpheline cannibale ayant croqué sa sœur pour survivre, et combien d'autres encore. L'écriture est là, à même ses personnages, pour façonner l'exemple d'une pensée qui se retourne sans cesse, qui fuit et se rattrape elle-même, cherchant à traduire l'essence de la vie et de la mort comme les deux côtés d'une même surface. Un ruban de Möbius, en quelque sorte. Or, quelle est cette essence de l'écriture qui fait battre le souvenir de l'enfant et de la mère? L'essence est fracture, l'essence est battement, elle est limite. C'est du moins ce que nous enseignent les portraits de ces personnages de Sixou que nous appellerons affectueusement ici des monstres, ces petits monstres d'écriture. Or, que nous apprennent ces êtres autres? Qu'ont-ils à nous dire? À quel monde nous donnent-ils accès? Mais surtout, de quelles pensées sont-ils le lieu? De quelle éthique sont-ils la chance? C'est à ces réflexions que m'ont mené mes lectures du jour où je n'étais pas là, puis des années plus tard, d'Homère est morte. Le monstre apparaît comme une figure d'excès, ce qui déborde, excède, une représentation qui déplace la limite constamment sur l'axe de la normalité. Or, chez Sixou, la normalité est justement remise en cause, comme dans cette scène narrant la naissance de l'enfant dans Neutre, paru en 1972, un des premiers balbutiements de l'infance et qui ne cesse de me hanter depuis ma première lecture. Je lis la scène. Une primipare jeune, sans péché, sans tache héréditaire, sans trouble psychique ou hormonal, accouche dans des conditions normales, sans intervention médicale, magique ou superstitieuse, d'un point de suspension, parenthèse, être. Le rejeton, il est vrai, peut être dit. Fils, si le mot veut bien encore désigner cet être issu sans conteste du ventre maternel. Mais enfant ne va pas avec ce fils, sauf par connotation de petitesse. Que pense l'accouchée qui voit ce sans bras, sans jambes, sans membres autres que celui carmin comme enflammé du milieu et dont la face est fendue d'yeux presque voilés par trois paupières, la bouche à peine marquée, remplie par la langue géante, le cou sans force, n'assumant pas la tête qui pend indifféremment sur la poitrine ou sur le dos, du nom de mère. » Fin de la citation. Ce passage marque en quelque sorte la naissance de l'infance en même temps, qu'il fixe sa forme impossible, puis trace les contours des mondes où évoluent la narratrice et les personnages, c'est-à-dire les conditions normales de l'accouchement qui tranchent avec l'anormalité absolue de l'enfant qu'on ne sait pas comment appeler, ni ce qu'il en est de son effet sur l'autre. Échappant ainsi aux conditions dites normales de l'existence, l'enfant ici, une créature difforme, un monstre en toutes lettres, inaugure, préfigure un certain rapport à l'événement qui inscrit lui-même une ligne de pensée, aussi rompue soit-elle. Inquiété par le monstre qui fait événement dans neutre, comme dans les autres livres, et apparaître toujours pour la toute première fois, la lectrice est tentée par le corps, la forme, l'apparition de ce monstre d'innocence innée, pour reprendre l'expression de Jacques Derrida dans La Veilleuse. Une expression qui contient en elle-même tous les paradoxes associés à l'enfant, ce qui s'avère monstrueux et innocent à la fois, ce qui est acquis de naissance, en même temps que ce qui n'est pas encore né, inné, non né. Aussi bien dire l'enfant trisomique dont la monstruosité et l'innocence sont de naissance sans être encore tout à fait arrivés au monde, puisque le statut d'être ne lui est pas encore conféré. Il lui échappe, il l'excède. Difforme, hors norme, ce qui excède tout ce qu'on peut concevoir, tel est le monstre que définit Ginette Michaud dans « Battement du secret littéraire ». À l'image de l'événement qui se révèle comme monstruosité pure ou ce qui se montre sans être prévisible ni visible, comme l'écrit Patrick Marot dans l'événement et le deuil de l'expérience, le monstre, du latin monstrum, dérivé de monstro, montré, est précisément ce qu'on regarde et ne peut regarder. Il est l'inenvisageable, l'innommable, un scandale passé sous silence. Enfin, la monstruosité, écrit Jacques Derrida dans Point de suspension, se montre dans quelque chose qui ne s'est pas encore montré et qui donc ressemble à une hallucination, vient frapper la vue, effrayée précisément parce que aucune anticipation n'était prête pour identifier cette figure. Fin de la citation de Derrida. Et c'est précisément cela que l'on retrouve dans cette scène de neutre. Du côté du droit, on nous apprend que la définition de ce qu'est un monstre se joue à la frontière de ce qui est considéré humain ou ne l'est pas. Eric Reiter montre bien dans son article intitulé « Rethinking Civil Law Taxonomy, Persons, Things and the Problem of Domat's Monster » que la question du monstre est avant tout relative à sa forme. Elle se pose ensuite en termes de taxonomie, à savoir à quelle catégorie être, chose ou autre, appartient le monstre. Reiter rappelle qu'en droit romain, monstrous birds that do not have human form are not considered to be persons and are not counted as the children of those who bear them. Ainsi, les enfants monstrueux ne comptent pas. Les traditions juridiques anglaises et françaises permettent en somme de considérer le monstre comme un défi en regard des catégories et de l'idée même de taxonomie. Le monstre inquiète le juriste, générant pour la pensée et l'esprit même du droit frayeur et anxiété. Dans Neutre, et plus encore dans Le jour où je n'étais pas là, la narratrice se révèle prise dans la séduction impossible du monstre. L'écriture de Cixous la place ainsi en témoin, peinant à se projeter dans la peau du parent d'un tel enfant, question qui est posée dans la scène de Neutre que j'ai lue tout à l'heure. Je la cite brièvement. « Que pense l'accouchée du nom de mère ?» Elle subit l'effet du mongolien comme une rupture en tout point. Je n'avais que 22 ans, dit la narratrice du jour où je n'étais pas là, quand éclata la révolution mongolienne. Pour les parents, le mongolien est professeur de renversement. Fin de la citation. En une filiation inversée où c'est le fils qui donne à la mère, Sixou reçoit ainsi le don de ce renversement. Cela donne lieu d'une certaine façon à sa poétique qui s'inscrit dans le dérèglement de la syntaxe, de la grammaire et du sens, témoignant de la toute-puissance de l'invention poétique et de la fiction. Ainsi, le monstre constitue un des paradigmes de pensée et d'écriture les plus féconds d'Hélène Sixou, l'origine d'une révolution de la pensée. À l'autre extrémité de la lignée se trouve la mère, façonnée d'une monstruosité qui évoque en écho celle de l'enfant qui dicte le livre. En 2014, Omer est morte raconte l'histoire de Omer est morte raconte l'histoire de la dernière année de la mère, son agonie donnant lieu à une litanie en même temps qu'à un hommage à Eve Sixou, personnage des livres de sa fille depuis toujours. La mère se meurt, la fille écrit, et ensemble, elles pensent, vivent et écrivent, parlant d'une même voix par la bouche du livre. Alors que l'infant se révèle comme l'étrangère absolue, à jamais toujours déjà séparée de la mère, avec Omer est morte, la narratrice révèle un désir amoureux et sauvage d'incorporation, de fusion, de communion en une seule voix et un seul corps de la mère et de la fille. La mère, et je cite Omer est morte, grandit et emplit tout son corps et son âme et déborde par les yeux de sa fille. Elle est son trésor, sa nymphe aimée. Fin de la citation. Sixou trace ainsi le portrait d'elle, au pluriel, unifiées et unies dans le terme « moiement », une expression que l'on retrouve dans « Revirement dans l'Antarctique du cœur » paru en 2011. Ceci est un autoportrait, écrit Sixou, un autoportrait pluriel d'elle et de sa mère par une même voix et une même signature, unifiées comme Dieu et son Fils en un seul corps, une seule âme et une seule vie. Sixou déplace et rejoue ici les limites mêmes de l'écriture biographique et autobiographique, écrivant sur la limite de ce qui les distingue ou de ce qui distingue le soi et l'autre. Le portrait est on ne peut plus déconstruit, Sixou explorant ses éclipses et ses ruines, pour citer Jean-Luc Nancy à propos du portrait. Or, par un tel portrait de sa mère atteinte de grand âge, Sixou donne naissance à un nouveau genre qui excède l'humain. Se tenant dans les lettres de sa fille comme une outre humaine, Ève est dépeinte comme l'autre absolu. La mère est l'occasion, la chance pour Sixou de témoigner de ce qu'elle appelle le processus de l'altération infinie qui caractérise le grand âge. Ève est l'ultime humaine qui excède l'humain dans le récit de son outre-vie. Et son corps n'échappe pas évidemment à cette transformation qui s'opère. Il est le signe d'un passage. Il fait œuvre de défiguration, comme l'écrit Sixou. C'est un chef-d'œuvre de mutation, un territoire jusque-là inexploré. Je la cite. Son visage envahit comme le jardin hirsute de broussailles. Fin de la citation. Tel un masque de l'outre-vie. Son incapacité à parler, la surdité dont elle souffre complètent d'ailleurs le portrait. Sixou pousse l'exercice du portrait dans ses derniers retranchements maternels et jusqu'au scandale, jusqu'à l'autre scène de la fusion maternelle. Dans un des derniers passages du livre, la fille décrit la mère et crie, en même temps que chuchote, son amour pour celle qui se meurt. Elle sent bon. Je l'aime charnellement, avec délicatesse. Le mot « maman » règne. Je fais corps avec ma terre d'enfance, avec maman, ma ville natale. Je tremble, je sens mes forces baisser, ma faiblesse monter. C'est maman qui s'écoule de moi. Je m'exsangue. Dernière page de notre vie, note le cahier. Je veux la garder et la dépose sans la perdre. Fin de la citation. Cette dernière page de leur vie, Sixou voudra d'ailleurs la faire durer à l'infini, la phrase n'affichant pas de point final, suspendue à jamais, hors des limites du livre. Comme elle l'a fait pour Omi l'aïeul dans Le jour où je n'étais pas là, Sixou formule à partir du livre d'Ève la question de vie ou de mort. La question de la vie ou de la mort d'Ève passe en douce au détour de conversation entre Hélène et son fils, puis sa fille, à propos de donner la mort ou non. C'est en fait la question centrale qui réside comme une tache aveugle dans l'écriture. Or, si cela n'était pas si clair, pouvait encore hésiter dans le jour où je n'étais pas là, quoique le parti pris de Sixou est cette fois indéniable. Elle maintient la vie jusqu'au bout, coûte que coûte. Homère est morte constitue ainsi un livre de maintenance, c'est le mot qu'elle utilise, en lettres majuscules. Maintenance Ève, titre du livre, écrit Sixou. Pour que, je la cite encore, dans 200 ans, nous puissions reconstituer la vie d'Ève Klein au centime près. Fin de la citation. Le livre est ainsi un musée vivant et pensant où chaque morceau d'Ève est soigneusement préservé, alors même que le récit s'égare et nous perd parfois dans un dédale de jours et de dates dont la succession est menacée par l'imminence de la mort. La narration se trouve d'ailleurs littéralement interrompue, comme elle l'est toujours, par les facsimilés du cahier de notes d'Ève qui sont reproduits dans le livre, cahier qu'elle utilisait pour sa pratique de sage-femme. Intitulé « Accouchement sans douleur », il est le contrepoids du livre, tel une prière, un appel pour une mort sans douleur. Refusant le deuil et ses étapes, Sixou écrit au cœur du manque de la mère. « Ma mère me manque », écrit-elle dans le livre. Et c'est ainsi que la fille résiste corps et âme à la présence de la mort, va tout faire pour la retarder en maintenant sa mère du côté de la vie. Elle résiste et la détente sera brève. L'abandon occupant seulement le dernier paragraphe du livre, alors que jusque-là, même devant la mort, elle rejoue sans cesse la scène de la mort de la mère. Continuant de chercher, je cherche, écrit-elle à l'avant-dernière page du livre, on ne sait trop quoi, une réponse, une porte de sortie, une façon de raconter, une autre issue à l'histoire d'Ève Sixou peut-être. Jusqu'à la fin, celle de sa mère et celle du livre, Sixou refuse de basculer, préférant vivre à l'orée de la mort à la frontière, ou plutôt dans la frontière, comme elle l'écrit, restant dans le brouillard avec sa mère. Je la cite. Cela me soulage infiniment de reconnaître que c'est par là que je suis avec ma mère. Nous sommes le brouillard. Partout s'étirent des fils d'Ève, soit brillante. Fin de citation. Cette expérience de la frontière et de ces franges d'Ève qui la débordent à la frontière et dans celle-ci est la position qu'adopte Sixou à l'égard de la vie et de la mort de la mère, mais également de l'écriture qui se fait à la limite du poétique, du lisible, de l'indicible, est toujours en train de repousser cette limite. Pardon. La mort apparaît ainsi comme une coupure qu'il faut traverser pour être dans la durée, pour paraphraser Montaigne, une frontière, une limite dont l'agonie serait la trace, préparant la mère et la fille à vivre ensemble, séparés, avec un trait d'union, comme l'écrit Sixou. Sur cette limite, sur ce trait d'union, sur l'arrête du temps, s'écrit le livre dans l'abandon total de l'écriture à ce qui arrive et n'arrive pas, toujours les deux. C'est le triomphe de l'événement pur qu'est la mort, ce qui arrive à ne pas arriver et à être constamment repoussé. Le récit va donc s'achever par une suspension, un suspense infini. « Elle ne m'a pas appelée », écrit Sixou. « Elle-même n'était peut-être pas là. Le non-événement de non-Ève a peut-être eu lieu, tandis qu'elle dormait. Il lui a peut-être échappé. Peut-être même rien ne s'est-il passé. C'est peut-être rien qui est venu. Et ainsi, j'ai perdu cette très longue vie unitive au coin d'un temps sans minute. » Fin de la citation. Au terme de ce voyage, je ne sais plus désormais si ces créatures aimées que j'ai croisées sont bel et bien des monstres, mais leur étrangeté demeure entière. Et c'est cette étrangeté, apparentée aux monstres, qui pousse à penser des choses que l'on n'avait pas pensées avant, comme Sixou le dit dans « Aller vers le plus effrayant ». Par cette étrangeté, l'enfant comme la mère ne cesse d'inaugurer, d'inventer des modes de penser et d'écrire qui sont ceux d'Hélène Sixou, toujours à, sur la limite, du vivant et du non-vivant, de l'humain et de l'animal, de l'humain et de l'inhumain, du monde et de l'immonde. C'est avec eux que j'avance dans la séduction de leur étrangeté. Des monstres? Je ne sais plus. Peut-être les ai-je rêvés, ou peut-être était-ce plutôt des dieux. Merci beaucoup.
Merci Elsa. Heureusement, les morts ne sont jamais morts tant ils vivent dans les mots. Bon, alors je passe. Bon, enfin, je dois présenter Eric, qui est bien connu de tous, hein, de tous et toutes ici, au moins de gens, des Sixousiens, Sixousiennes, hein, de la salle. Mais enfin, on le fait. Évidemment, il y a des gens qui sont arrivés de loin, peut-être, ils le connaissent un peu moins. Bon, il faut dire que Eric est en même temps loin, mais en même temps aussi près d'Hélène, enfin loin du fait qu'il travaille à l'université de Leeds au Royaume-Uni et dans le département de Beaux-Arts, histoire de l'art et études culturelles, où il enseigne notamment la cultural theory, les études de genre, la déconstruction et l'écriture féminine. Il dirige aussi la revue trimestrielle de théorie critique et culturelle Parallax, publiée par Routledge. Très près aussi, hein, parce que depuis, ou peut-être avant, je ne sais pas, hein, la réalisation de sa thèse doctorale avec Hélène elle-même, au Centre d'études féminines, évidemment, de Paris 8, thèse qui porte le titre de « Les livres d'heures de la mère » d'Osnabrück à Oran, temps, histoire, écriture dans l'œuvre d'Hélène Cixous et qu'il a présentée en 2000. Bon, il a publié beaucoup d'articles et beaucoup de chapitres des livres. Il a édité un choix de pièces d'Hélène Cixous en 2004. En 2010, un recueil des essais d'Hélène Cixous entre 1972 et 2009. Quant à ses articles, pour faire un petit choix qu'il a publié en anglais et en français, et aussi les chapitres de livres, notamment et dans les livres que Martha a dirigés. J'en citerai simplement trois. Et son chapitre « Je t'apostrophe » et dans l'événement comme écriture, « Cixous et Derrida se lisant » en campagne première 2007, ou en espagnol. Cómo cambiar el curso de la historia, el teatro de Hélène Cixous, en Barcelona, en el libro Ver con Hélène Cixous en 2006. Et puis aussi citer au moins, enfin le réécrire dans les livres édités par Martha et Bruno Clément. Bon, il faut dire aussi qu'il a réfléchi dans certains chapitres sur la traduction aussi, et notamment sur la traduction des textes d'Hélène. On peut rappeler son chapitre « Traduire » avec le H au milieu, hein, c'est-à-dire traduire et trahir, évidemment, dans les Assises de traduction littéraire en 2005, publié dans les Actes Sud, et des réflexions qui viennent de pair, qui procèdent en réalité de son travail même en tant que traducteur, de sa pratique en tant que traducteur, parce qu'il a traduit aussi lui-même, et un certain nombre de textes de Cixous en anglais. Bon, je lui cède la parole, il va parler de ce bond de survie qu'on veut découvrir, hein, ce qu'il y a derrière ça. Merci, Eric.
Merci beaucoup. Merci à toi. Je dois dire que mon titre n'est pas resté en place, mais mon texte non plus, donc je le laisse. Je le laisse quand même. Ah, c'est pas grave. Faire une fleur, je ne sais pas si cela se traduit sans en laisser des plumes au passage, pas plus que la différence sexuelle d'ailleurs, la fleur étant justement la différence sexuelle de la vie dite végétale. Ça fait rêver par l'entremise de quelques abeilles dont on ne sait jamais sûr d'éviter la piqûre ou quelques abécédaires, c'est pareil dans ces parages. Or, je suis pas sûr de savoir, malgré les convenances grammaticales ou autre, si cela décrit une activité active, faire une fleur, encore moins faire une fleur à quelqu'un ou à quelque chose, un texte par exemple, ou un thème, une figure ou un signifiant. C'est ça, donner à lire. Ce qui ne revient pas à lui faire un enfant, et pourtant il y a un parfum pour qui cherche le corps dans la langue, un air de famille dès qu'il est question de la différence sexuelle. Des différences sexuelles, il y en a tellement, et surtout des différences de différences, des différences à l'intérieur, on pourrait dire sur le dos des différences. Une fleur dissémine comme un séminaire, mais si elle sème le vent, elle récolte aussi la couleur. Pas de fleur sans couleur, à moins que ce soit l'inverse, mais à condition de périr aussitôt, trop tôt, dans le fleur de l'âge, justement, l'échéance de l'éclosion. Oui, même s'il y a toujours un reste de parfum, une graine ou une autre, où couve encore la vie. ABC, la littérature à la lettre, c'est ainsi que s'annonce chacun des pétales, dont il y a deux pour l'instant, de la fleur de ma vie, c'est une citation, autrement dit, la désormais célèbre livre que je n'écris pas. Je veux dire, sur la couverture de ces deux volumes, le titre d'une sorte de sous-ensemble de livres parmi les livres d'Hélène Cixous. Abstracte et brève chronique du temps, T minuscule, notez-le, il y a de quoi aborder ces livres par leur couverture, ce que je m'en vais faire à peu près. Sinon, leur poème, c'est ce mot de brève qui me le souffle, l'économie lyrique, exilyrique d'un abstracteur de quintessence, se concentrer de certains tracts, des abstracts, et je dirais dans un instant, en prose, ce qui m'inspire du côté de la poésie, ce mot de brève. Cette phrase abstracte et brève chronique du temps, c'est une citation. On le soupçonne tout de suite à l'aspect de ce mot étrange d'abstract tel qu'il apparaît sur la couverture du chapitre Los. Par moitié étranger, lisible, illisible, adjectif en position initiale, comme le mot brève également, espèce d'anachronie grammaticale en français, abstracte et brève chronique, ce qui laisse entendre aussi une substantivisation virtuelle des adjectifs. L'abstract anglais est bien un substantif. Et donc, si le mot d'abstract a l'air d'un substantif, alors la brève aussi, ce mot étant lui-même une abréviation, la brévère, la syllabe ou la nouvelle brève. Mais ces deux mots dépareillés sont accordés au moyen d'un S final. Et en effet, tout est au pluriel sur cette couverture. Abstract, S, brève, S, chronique, S, temps, S, mais aussi Cixous, S, et Los, S. Comme si cette S, à la fois pluriel et interrogatif, S, est-ce vrai, est-ce possible? Comme si cette S qui s'insinue un peu partout donnait le temps aussi, faisait le temps, il est temps, dit-il, soufflait le temps, le piquait ou le disait à l'oreille, là où il vient, il en vient à manquer. Rien que le temps ou siffler le temps, c'est-à-dire la fin. Et le statut citationnel de cette phrase abstracte et brève chronique du temps se voit confirmé par l'épigraphe, non pas l'épitaphe ou l'exergue imprimé sur l'une des pages de garde du livre. Let them be well used, for they are the abstract and brief chronicles of time. Qu'on s'occupe bien d'eux, car ils sont les chroniques abstraites et brèves du temps. Cette citation en épigraphe, en version originale, est signée Hamlet. Pas Shakespeare, mais Hamlet, ce qui nous informe que si nous sommes au bord du livre, nous sommes déjà au milieu de la littérature. Que dis-je ? Nous sommes au milieu des lettres entre S et H. C'est Hamlet qui reçoit la troupe de théâtre à Elsinore. Ce sera la pièce dans la pièce, nous allons retenir cette figure en abîme, la pièce dans la pièce, la célèbre souricière au moyen de laquelle Hamlet va attraper la conscience du roi régicide. Et il faut dire que c'est une scène où l'art ou la littérature, le théâtre, va agir en temps réel sur la réalité. Une simple pièce de théâtre va changer le cours de l'histoire. Mais on n'y est pas encore. Ici, les comédiens viennent d'arriver et Hamlet ordonne à Polonius d'en prendre soin. Il faut s'occuper des comédiens, dit Hamlet, car ils sont les abstracts et brèves chroniques du temps. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Quel est le rapport entre le théâtre et les chroniques? Et surtout, qu'est-ce que cela a à faire avec ce nouveau départ dans l'œuvre d'Hélène Cixous, cette nouvelle série de livres sous le signe du temps qui presse? D'abord, le théâtre, ce serait la littérature sous sa forme mortelle. L'art des comédiens est entièrement dans le passage, comme la vie même. Une fois les rideaux tombés, il n'en reste rien, sauf le silence des restes, bien entendu. C'est un peu comme une chronique, d'ailleurs, le théâtre, tant il est question du rapport entre l'écriture et la vie, la mort. La vie après la mort, ou vice-versa. Je pense à ce que dit Hélène Cixous de son rapport à l'écriture du théâtre. Que le théâtre, contrairement à la fiction littéraire, lui offre un retour immédiat, un échange en direct avec le lecteur ou la lecture, c'est-à-dire le public. Autrement dit, cette écriture-là serait en prise directe avec la vie vivante, tout comme les chroniques dont parle Hamlet. Et j'ajoute que c'est le cas d'ailleurs si les comédiens interprètent un texte écrit pour eux en direct par leur auteur, S ou H, selon le cas, ou s'ils réinterprètent un texte déjà écrit, comme dans l'exemple de cette souricière dans La souricière, qui va parler sans le dire et malgré les apparences de l'actualité brûlante, d'une histoire terrible, mais encore inachevée, que Hamlet est en train de vivre. Tout se passe alors avec l'apparition soudaine de ces abstractes et brèves chroniques du temps, comme si en plein vol, Hélène Cixous commençait ou recommençait au début, en entamant cet ABC du texte ou de la vie textuelle, de la vie comme du texte, de la vie comme texte, ce commencement d'une œuvre au milieu de l'œuvre. D'abord, chapitre Los, paru en 2013, puis Corollaire d'un vœu, en 2015. Des chroniques pas si brèves que ça, ces deux chapitres, selon la prière d'insérer de ce dernier, ces deux livres, chapitres pétales du livre que je n'écris pas. Or, ce livre que je n'écris pas a commencé à s'écrire, ou plutôt à se n'écrire, bien avant 2013. Les livres d'Hélène Cixous en parlent depuis assez longtemps. Il est le maître, lit-on par exemple au début du chapitre Los, je cite, « le double, le prophète, presque le messie de tous les livres que j'écris à son appel ». Fin de citation. Mais si les livres et du coup les lecteurs d'Hélène Cixous connaissent ou reconnaissent l'absence marquée, l'absence soulignée, c'est-à-dire la présence enlevée de ce livre toujours déjà non écrit dans les livres effectivement publiés en chair et en os d'Hélène Cixous, rien ne pouvait anticiper le choc d'une telle phrase dès l'abord du chapitre Los. Je cite « Ce livre est un chapitre de livre que je n'écris pas ». On reconnaît, il est vrai, dans cette phrase inaugurale, une structure en abîme. Ce livre est un chapitre du livre, rappelle par exemple un célèbre livre personnage de livre d'Hélène Cixous. Ce qu'on apprend de la sorte, donc, en 2013, le nouveau livre à peine entamé, c'est que ce livre d'Hélène Cixous, qui aura toujours été là sans être là, serait sa, et je cite, « ma vie », son livre « My Life », et notez pourtant le recours ici à l'anglais, c'est une citation de la même prière d'insérer. Pour décrire ce livre vie, l'auteur fait appel à l'exemple d'un autre, à Stendhal en l'occurrence, qui a dû, je cite, « se changer en Henri Brûlard pour écrire sa My Life ». Autrement dit, il faut une distance, il faut se détacher de soi-même pour écrire au plus près de sa vie. D'ailleurs, elle le dit elle-même. On ne peut écrire le livre « My Life » qu'en se détachant en pièces et en se reliant en riant. Fin de citation. Voici donc le livre le plus intime, le plus fidèle, celui qui épouse la vie au plus près, qui en fait la chronique justement, le livre donc une œuvre littéraire, mais dont la matière serait la vie même. Non seulement cela, mais cette proximité efface aussi la frontière entre les deux. La singularité de ce livre-là, c'est que la vie passerait quasiment sans déplacement, sans traduction, sans transformation, en se livrant. Mais que se passe-t-il? Mais que se cache-t-il et qui derrière ce titre qui n'en est pas un du livre inexistant? En effet, le livre que je n'écris pas, peut-être qu'il est écrit par quelqu'un d'autre. Stendhal, par exemple, ou Brûlard, ou bien peut-être au contraire que c'est le livre que je n'écris pas, c'est-à-dire qu'il paraît sans avoir été écrit, sans qu'un jeu l'écrive, peut-être qu'il est secrété au lieu d'avoir été écrit, qu'il passe directement de la vie en livre sans détour, sans reprise de la littérature directe, branchée directement sur la vie. Ce qui soulève tout de suite plusieurs questions évidentes mais retorses. D'abord, jusqu'à cette date de 2013, nous avons effectivement juré que tous les livres d'Hélène Cixous s'écrivent à même la vie d'Hélène Cixous et depuis toujours. Alors, on serait en droit de se demander, en tant que lecteur, ce qui se passe là. Elle nous aurait floué cette œuvre, menée en bateau, de livre en livre, et c'est seulement maintenant que le livre « Ma vie » d'Hélène Cixous commence à paraître. Ensuite, deuxième retournement, ce serait même une sorte de blague, comme si Hélène Cixous commençait là, avec ce livre, à faire tout le contraire de ce qu'elle avait toujours fait. Comme si elle se mettait à faire du réalisme, de Dieu nous en garde, du roman ou de l'autobiographie. Troisièmement, et peut-être plus grave que tout, c'est ce renoncement, si je peux le dire ainsi, du livre non écrit, ce livre que je n'écris pas, qui aura été brutalement abandonné au seuil de ce livre, à en croire chapitre Los, c'est-à-dire abandonné, si vous me suivez, en tant que livre non écrit, abandonné par l'écriture, dans l'écriture, mais en se livrant enfin à l'écriture, c'est-à-dire à sa perte, au moment même qu'il se trouve écrit. Non seulement ce titre ou ce mot a plusieurs mots, le livre que je n'écris pas existe bel et bien dans les livres effectivement écrits par Hélène Cixous depuis des années, mais Hélène Cixous en avait même fait une sorte de théorie de la littérature. Il y a toujours du non-écrit dans l'écriture, un texte est né pour se cacher au premier regard, ce serait précisément quelque chose comme le livre que je n'écris pas qui ouvre l'espace même de la littérature en général, etc. Sur quoi je m'arrête un instant pour reprendre en amont par un semi, peut-être pas un théorème sur la théorème, mais la mise en scène d'une sorte de confession théorique. Par jeu donc, et dans un petit moment d'angoisse structuraliste, je me suis mis à dénombrer ce que j'ai appelé les sources de l'écriture de Hélène Cixous. Elle s'est retirée ensuite, cette vague structuraliste, de ma plage, et je m'empresserai tout de suite de problématiser ce découpage quasi arbitraire, mais elle a laissé sinon des signes la liste suivante. Il y aurait donc, comme source de l'écriture de Hélène Cixous, 1. Les rêves, 2. Les cahiers, les carnets, 3. Les livres proches ou les livres des auteurs proches de Hélène Cixous, 4. La langue, les mots, les phrases, la phrase, l'idiome, 5. Des états d'âme, du corps ou de l'esprit, des objets de pensée, des philosophèmes, 6. L'écriture là, l'événement dans le texte que constitue l'écriture en train de s'écrire. 7. Le temps perdu retrouvé, c'est-à-dire le souvenir, la mémoire des expériences dans la vie de celle qui écrit et qui signe Hélène Cixous. Je ne sais pas si c'était dans un moment critique ou onirique que j'ai imaginé cela, théorique ou poétique, et je n'irai pas plus loin en ce sens, mais il me faut quand même noter non seulement que ces catégories ne tiennent pas la route, mais que l'écriture d'Hélène Cixous passe son temps à désobéir à de telles limites catégorielles. Ceci dit, déjouer ces limites ne revient pas à les effacer tout simplement, et c'est cette désobéissance qui déconstruit au sens fort ces limites qu'il s'agit d'illustrer un tant soit peu ici. Prenons le rêve pour commencer, c'est-à-dire la frontière entre le rêve et la littérature. Les rêves font partie intégrante de l'œuvre poétique d'Hélène Cixous. Or, ce sont de vrais rêves. Cixous le dit souvent, on l'a entendu ici, et pas seulement dans Rêve que je te dis, ce livre à la fois unique, atypique, hors série et en quelque sorte essentiel, quintessentiel de l'œuvre entière. À la différence des faux rêves reconstitués selon des codes du réalisme moderniste, Hélène Cixous les retranscrit brut. Ses rêves constituent donc un étonnant cas paradoxal, non pas de réalisme, mais en quelque sorte de réalité dans l'écriture d'Hélène Cixous. Cette transcription telle qu'elle est sans interprétation des rêves dans le texte. Et dans quasiment tous les textes poétiques de Lin Sik Su, cette réalité du rêve étant consubstantielle à son œuvre depuis toujours et à chaque moment, et à chaque nouveau livre publié. Il est vrai que les rêves ne sont pas toujours marqués comme tels dans le texte. Ils n'arrivent pas toujours avec un titre ou une étiquette qui prévient le lecteur de la présence d'un rêve, comme la pancarte dressée dans les avertissements de rêve, je te dis, sur laquelle on lit, et je cite, « Attention, rêve ». Mais dire que la frontière n'est pas étanche entre ces zones de rêve crues et le reste de ce qui constitue un texte de Lin Sik Su n'enlève en rien l'étrangeté de ces incrustations à première vue, en tout cas. On pourrait même penser que ces fragments de rêve livrés au naturel, sans être travaillés ou retouchés par l'artiste, constitueraient des régions hors littérature dans le texte. Un faux rêve de Joyce, se dirait-on par exemple, savamment calculé par l'auteur pour faire avancer la trame du récit, ce serait ça la littérature, une invention poétique. À côté de quoi, les bouts de véritables rêves retranscrits chez Lin Sik Su, on pourrait penser que ce soit tout au plus du témoignage, du reportage ou de la sociologie. Mais évidemment, c'est le contraire, ou en tout cas autre chose. Tout se passe, en effet, comme si ces vrais rêves, ces transcriptions de la réalité de la vie véritablement vécues par la personne de l'écrivain constituaient déjà, dans la vie d'où ils ont été copiés, une part de littérature, une instance de littérature dans la vie, de la littérature vivante, de la littérature vie et non pas simplement une matière brute non littéraire dont un écrivain pourrait se servir pour fabriquer de la littérature. Je n'ai pas inventé cette idée. On pourrait non seulement relever un grand nombre de passages où les textes de Lin Sik Su disent des choses analogues, mais on pourrait montrer également qu'une réflexion sur ces fragments de vie littérature, traverse cette œuvre de bout en bout comme l'un de ses axes ou de ses fils conducteurs. Mais pour m'en tenir à mes catégories provisoires de sources, c'est à la vie qu'il s'agit d'interroger ici plutôt. C'est la vie qu'il s'agit d'interroger ici plutôt que le rêve. Je veux dire la vie dans l'œuvre, cette source de l'écriture de Lin Sik Su auquel j'ai donné les noms de temps, expérience, de mémoire. L'hypothèse, plus c'est autobiographique, plus c'est littéraire, plus c'est réel, plus c'est fiction. Ces ABC, cette nouveauté récente, ce versement, ce tournement dans l'œuvre, ce retournement inattendu, ce dedans dehors de l'œuvre, c'est aussi ça, c'est avant tout ça. En vue de la fin, une retraversée de la vie, mais de la vie l'œuvre, car c'est inséparable. Recommençons. Ce qu'on apprend avec étonnement en ouvrant le chapitre Los, c'est que le livre que je n'écris pas, ce fantôme familier pour les lisants d'Lin Sik Su, le maître, dit la narratrice, le double, le prophète, presque le messie de tous les livres que j'écris à son appel, ce livre virtuel mais d'autant plus absolu ou transcendantal qui régente et ordonne tous les livres écrits de la main d'Lin Sik Su, il se trouve qu'il n'est pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le livre le plus littéraire, la poésie pure, dont les livres actuels concrets ne seraient que des restes. Mais, au contraire, une histoire d'amour, une histoire d'amour vécue et aimée par la personne, disons, de l'auteur. C'est une leçon, encore une, de littérature auprès d'Lin Sik Su. Encore une déconstruction, pour le dire rapidement, inattendue de la vie et de l'œuvre. Le livre que je n'écris pas, en somme, il n'est pas moins littéraire pour être vivant et aimant. La chronologie de ma vie par amour fait partie des lettres de plein droit. Or, le temps presse et cette pression du temps fait éclore. La course reprend, elle redouble de vitesse. Du livre que je n'écris pas, ce qu'on apprend tout de suite et de manière assez insistante, puisque cela se répète dans le deuxième livre, chapitre pédale, Les corollaires d'un vœu, ce qu'on lit du livre que je n'écris pas, avant même l'entrée en matière, c'est qu'il est, et je cite, structuré comme une fleur. Suivons la fleur de pétale en fait pétale. On la trouve, cette expression, que le livre que je n'écris pas est structuré comme une fleur, imprimée sur chacun des deux pétales à moitié détachés du livre que sont les prières d'insérer. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, structuré comme une fleur? Justement, d'abord, il s'agit d'un repiquage à peine déplacé de la formule célèbre du fils ou de l'enfant terrible de la psychanalyse, selon laquelle il n'y a pas de signifié transcendantal au fond, puisque l'inconscient serait structuré comme un langage. L'inconscient, disons au passage, c'est un peu un autre nom du livre que je n'écris pas. De même que l'inconscient sait qu'on ne rêve pas seulement quand on dort, de même le livre que je n'écris pas agit aussi, il laisse ses empreintes dans l'écriture. D'ailleurs, il parle tout le temps, l'inconscient, c'est-à-dire le livre que je n'écris pas, sans jamais prendre la parole. Il jacasse, voilà un mot tout fait pour Lacan en Amérique, mais on n'entend rien à sa jacasserie. Il cause, quoi, sans jamais causer. Ça veut dire qu'on peut toujours courir, on ne saura jamais ce que veut dire un mot, pas un, fleur par exemple, ou langage, c'est sans appel, la ligne est à jamais coupée, et pourtant, voilà, on fait avec. D'ailleurs, on referait l'univers entier avec ça, mais à condition d'être au parfum, bien entendu. Et je m'arrête là pour l'instant.
Merci Eric pour cette belle traversée de volets de pétales de ce livre qu'Hélène n'écrit pas en l'écrivant. Nous avons encore, je sais, peu de temps, mais enfin 5 minutes ou 10 minutes, tant mieux. On peut céder la parole au public s'il y a exactement des questions, des commentaires, des réflexions aussi à partager. Oui, je vois, il y a une personne au fond.
Je suis arrivé à la fin, donc mes propos peuvent être un peu à côté du sujet, mais votre réflexion sur la littérature, elle me rappelle quel sens on peut donner à des écrits, des écrivains qui écrivent à plusieurs niveaux, leur histoire, des fois des fragments d'histoire, et puis toute une sentimentalité particulière. Je pense à Virginia Woolf dans Les Vagues, c'est vraiment compliqué l'interprétation, Emily Dickinson de par son histoire personnelle et sa souffrance, et j'ai l'impression que quand vous parlez de psychanalyse et d'interprétation et de métaphore, j'ai l'impression là, de loin, parce que je suis arrivé les 5 dernières minutes, qu'il y a un auteur qui pourrait vraiment compléter Hélène Sixous, je pense à Marie Cardinal. Et elle a écrit les mots pour le dire. Et là, c'est vraiment très spécial parce qu'on a vraiment une histoire qui se superpose à un symptôme qui est d'une rare complexité en interprétation.
Monsieur, excusez-moi, mais si on arrive 5 minutes avant la fin, on ne peut pas poser des questions. Ce n'est pas possible. Il faut avoir écouté les trois communications. Et puis, on a peu de temps. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, justement... Hélène, peut-être, tu veux réagir aux communications, puisque tu étais là.
Oui. Non, mais comme on a maintenant plus que 2 minutes, c'est ça? Bon, alors donc 2 minutes pour essayer de faire écho à ces immensités, parce que c'était immense, ces trois interventions, et en plus, avec des profondeurs poétiques qui dépassent largement notre possibilité de commentaire. Alors, j'ajouterai juste une image. C'est en prenant le jour et le mur et Ovide. Tu as raison, Laurent, de remarquer qu'on a peu travaillé sur la présence d'Ovide dans mes textes. Et moi-même, je me pose la question, mais je me dis c'est peut-être ma faute. Je l'ai peut-être, emmuré ou... Pourtant, il est partout. Il est vraiment celui qui a ouvert, qui a fendu comme ça le mur du manque de souffle pour faire passer la littérature. Et alors, je convoque ici un petit moment magnifique que j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, sinon je l'aurais oublié, avec notre ami Nicholas Royle, et qui est la mise en scène, et là je reprends vos différentes interventions, la mise en scène faite par Bottom et ses copains dans A Midsummer Night's Dream, et où donc Shakespeare, comme toujours, ouvre le théâtre au théâtre, fait entrer le théâtre dans le théâtre, et où nous voyons apparaître ces personnages magnifiques. Donc c'est en fait le jumeau de Hamlet et de la souricière. Un emprunt à Ovid d'une tragédie qui est Pyramé Thisbé qui tourne autour du mur, enfin essaye justement de faire le mur, fond le mur et essaye de le fendre, en fait bénéficie d'une fente dans le mur, ce qui est peut-être justement la définition de la littérature, hein, une fente dans le mur. Et peut-être, vous vous en souvenez, l'histoire de Pyramé Thisbé, c'est quelque chose d'admirable, absolument. C'est l'histoire d'un couple d'amants. En fait, c'est Roméo et Juliette avant Roméo et Juliette. C'est-à-dire qu'on doit tout, nous devons tous tout à Pyramé Thisbé, c'est-à-dire à Ovide, qui ne peuvent pas être réunis, qui sont à la fois séparés par la société, par les interdits, et ça se matérialise par un mur. Mais ils ont trouvé le truc. Et le truc, c'est qu'ils ont trouvé une toute petite faille dans le mur, et là, ils inventent le téléphone. Il se téléphone par la fente du mur. Voilà. Mais enfin, je ne vais pas vous raconter Pyramé Thisbé, il faut retourner à Ovide. Ce qui est merveilleux, c'est que la littérature fait ce qu'elle veut avec les concrets les plus intimes, les plus profonds de nos psychés en général. Là, c'est un mur, une fente, comment communiquer, comment passer, c'est le monde entier politique qui est représenté par ça. Ce qui commence en tragédie et finit en tragédie dans le sang et dans la douleur se retrouve dans Shakespeare comme admirable hyper comédie à fond tragique, c'est-à-dire la comédie même, avec le ressurgissement, la réincarnation de Pyramé Thisbé chez les petits. Alors les petits ont trouvé le truc le plus admirable alors du génie poétique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait le mur. Voilà. Alors c'est un des personnages du peuple fait le mur. C'est lui le mur. Alors il faut imaginer comment on va fendre le mur. En fait, c'est ce que tous les trois, tout à fait autrement, vous avez fait, toi avec le jour, en faisant apparaître justement que le jour, c'est aussi faire le jour, ou qu'il y ait un jour, afin de pouvoir justement traverser le mur ou la nuit, toi en rappelant à l'honneur suprême Ovide, qui est notre maître à tous, hein, et qui est aussi celui de Montaigne. Et toi, Eric, en faisant justement tous les murs et en me réapprenant que peut-être le livre que je n'écris pas ou le livre où je n'étais pas là ou le jour que je n'écris pas, etc. Tout ça dépend de notre capacité à poétiser ce qui nous rejette, ce qui nous menace, ce qui siffle le temps. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui sait siffler le temps, là ou je ne sais pas si c'est... Non, siffler la mi-temps, alors sifflons la mi-temps. Voilà, donc on va aller déjeuner.